Bonjour, dimanche, les électeurs et les électrices auront à choisir les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale entre les deux candidates et candidats qualifiés au premier tour des législatives. Pour rappel, les députés ont un rôle très important dans le fonctionnement démocratique de la France. Ce sont les députés qui votent les lois qui régissent le quotidien des Françaises et des Français. Ce sont eux qui votent le budget de l'État. Ce sont eux qui contrôlent l'action du gouvernement. Les députés peuvent déposer des amendements, des propositions de loi, des initiatives législatives qui peuvent devenir des lois si elles sont votées par les parlementaires. Les députés mènent aussi des actions au niveau local et dans leur permanence en recevant notamment les habitants de leur circonscription. Dimanche dernier, trois semaines après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, le Rassemblement national a confirmé au premier tour des législatives sa victoire aux élections européennes. Pour ce premier débat du second tour, nous recevons l'une des deux candidates en lice pour ce second tour sur la première circonscription, comprenant les cantons du centre-ville et Le Mans-Nord-Ouest, Sillé Guillaume, Conly, Beaumont-sur-Sarthe, Saint-Paterne et Fresnay-sur-Sarthe. Julie Delpech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la députée sortante Ensemble pour la République, majorité présidentielle. Vous êtes arrivée en seconde position au premier tour avec 30,84% des suffrages exprimés devant Ghislaine Bonnet, candidate à la France Insoumise, investie par le nouveau Front Populaire qui a rassemblé 25,01% des électeurs. Cécile de Cossé-Brissac du Rassemblement National est arrivée en tête de ce premier tour avec 33,6% des suffrages exprimés. Comme pour le débat du premier tour, la candidate n'a pas donné suite à notre invitation. Au résultat de ce premier tour des législatives, 1354 voix vous séparent avec Cécile de Cossé-Brissac. Quel enseignement tirez-vous de ce premier tour des élections législatives, Julie Delpech ?
Merci beaucoup déjà de votre accueil, et malgré le fait que Madame de Cossé-Brissac n'ait pas donné suite, merci de nous permettre de nous exprimer. Je pense que c'est important pour la démocratie que nos concitoyens puissent nous entendre. Moi, l'enseignement que je tire, c'est que, comme toujours, la première circonscription est finalement assez fidèle aux résultats nationaux, en tout cas pour le Rassemblement national, puisque c'était exactement à peu près le même chiffre aux européennes, 33%. Pour ma part, sur ces législatives, je suis au-dessus du résultat qu'a fait mon parti au niveau national. Et je pense que c'est l'engagement sur le terrain, l'ancrage sur le terrain qui a peut-être fait cette différence. Donc, j'aurais jamais eu la prétention d'arriver première compte tenu du contexte. Mais en tout cas, je remercie les électeurs qui m'ont fait confiance et qui me permettent d'aller continuer ce combat contre le Rassemblement national.
Comment vous envisagez de partir cette semaine à la conquête des électrices et des électeurs pour retrouver votre siège de député ?
Bah écoutez, moi je fais campagne comme en 2022, comme j'ai fait là pendant trois semaines. On essaye d'aller partout, donc là c'est court, il reste quatre jours. Mais l'idée c'est d'aller échanger, toujours échanger avec les personnes, les convaincre quand elles ne sont pas convaincues, les rassurer quand elles ont des doutes ou qu'elles sont inquiètes. Mais je pense que c'est sincèrement ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais depuis deux ans, être sur le terrain, aller échanger, aller écouter et montrer qu'on est là et qu'on se préoccupe de nos concitoyens et de leur quotidien.
Ghislaine Bonnet, candidate investie par le nouveau Front Populaire, a obtenu 12 258 voix. La candidate LFI aurait pu se maintenir au second tour, mais elle a décidé de se retirer pour faire barrage à la candidate du Rassemblement National. C'est ce qu'on appelle le Front Républicain, pour faire barrage à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Comment, Julie Delpech, vous envisagez de convaincre les électeurs de Ghislaine Bonnet de voter pour vous, sachant que vous représentez le parti présidentiel qui a instauré la retraite à 64 ans sans tenir compte des fortes mobilisations durant des semaines à l'appel de tous les syndicats, sachant que la majorité présidentielle a fait voter une loi immigration contre laquelle les députés de la NUPES se sont opposés, sachant que les députés de l'opposition de la précédente Assemblée nationale ont dénoncé l'usage abusif du 49-3 pour faire passer les réformes et les budgets présentés par les gouvernements du président de la République sans les soumettre au vote des députés qui représentent, faut-il le rappeler, les élus du peuple français.
Alors, vous dites beaucoup de choses intéressantes. Déjà, je salue la décision de Ghislaine Bonnet de se retirer en responsabilité. Nous-mêmes, dans notre parti, Ensemble pour la République, on se retire dans un certain nombre de circonscriptions parce que l'enjeu, c'est que le Rassemblement national n'est pas cette majorité absolue.
Alors, votre majorité se retire, mais pas dans toutes les circonscriptions, contrairement à la gauche qui retire ses candidatures sur toutes les circonscriptions.
Alors, pour l'instant, pas partout. Non plus la gauche.
Pratiquement partout, quand même, il faut
reconnaître.
Et nous aussi,
ça continue. Voilà, les discussions sont aussi en cours entre Ensemble pour la République
jusqu'à
et
le
Nouveau Front Populaire, exactement. Mais je suis sûre qu'on sera tous responsables et on ne prendra pas le risque de faire passer le Rassemblement National. Après, comment parler aux électeurs de Ghislaine Bonnet ? Moi, c'est très simple. Déjà, je pense que sur des valeurs qui sont les miennes, ma vision de la République, je pense qu'évidemment, on se rejoint plus qu'avec le Rassemblement National. Vous avez parlé de la loi immigration. Moi, je ne l'ai pas votée. Je me suis abstenue parce que j'ai ces valeurs-là. Il fallait une loi, mais pour moi, la partie intégration sur cette loi n'allait pas assez loin, n'était pas assez travaillée, assez poussée. Et donc, je n'ai pas souhaité voter la loi telle qu'elle a été présentée à l'Assemblée nationale. Et je pense que les électeurs qui sont républicains, qui sont démocrates, qui sont attachés à nos institutions, au-delà de nos différences sur certains sujets, on peut se retrouver. Sur la retraite, moi je l'ai dit, j'étais favorable à cette réforme parce que je pense qu'elle était nécessaire.
Même si elle était contestée par une grande majorité des Français.
Alors vous savez, si on fait que des choses populaires, on fait rien.
Oui, mais est-ce qu'à un moment, ça ne va pas à l'encontre du pouvoir et que vous vous retrouvez dans une situation où...
Évidemment,
mais
vous savez, le Rassemblement National, avec leur programme, c'est la retraite à 66 ans. Donc, j'ai envie de vous dire que, voilà, c'est aux gens de choisir.
Même s'ils avaient annoncé pendant...
Alors, ils avaient annoncé qu'ils l'abrogeaient, maintenant c'est 66 ans, ils ne sont de toute façon pas d'accord avec les LR d'Éric Ciotti. Donc voilà, c'est très flou, comme le reste du programme du Rassemblement National. On ne sait pas trop où ça va et il y a souvent des reculades.
Alors c'est flou, mais au demeurant, les gens votent pour eux.
Alors voilà, moi c'est aussi pour ça
que... Ça veut dire que c'est flou pour vous, c'est flou aussi pour les gens qui votent
pour eux.
Mais
vous savez, moi je vais sur le terrain et il faut l'écouter, ce vote Rassemblement National. Il faut le comprendre. Et moi, quand j'échange avec les gens, on me donne des raisons qui sont... Il faut les entendre. Les gens ont leurs raisons et elles sont légitimes pour eux. Mais ce que j'explique aux gens, alors quand on me dit on n'a pas essayé, c'est vrai. Moi, je les ai essayés pendant 2 ans. Donc, je peux à peu près avoir une idée quand même de ce que ça peut donner. Et puis, il y a plein de choses dans la vie qu'on n'a pas essayé et qu'on n'a pas envie d'essayer parce qu'on sait que ça va faire mal. Et
là, quoi, par exemple ?
Bah, moi, par exemple, je sais pas, je vous dis, je vais vous planter un clou dans la main. On n'a jamais essayé, est-ce que ça va faire mal ? Oui, ça va faire mal.
Moi, je suis même pas sûr, j'ai pas essayé non plus.
Voilà, vous avez pas essayé non plus. Enfin, je veux dire, je n'ai pas essayé est dangereux. J'achète une paire de chaussures, je l'ai pas essayé, j'essaye chez moi, je la ramène demain. C'est pas grave, c'est pas engageant. Là, on décide de l'avenir de notre pays. C'est pas du tout la même chose.
Et donc de la Constitution de l'Assemblée nationale.
Exactement.
Qui vote les lois, donc ça intervient
dans le
quotidien des Français.
Et aussi du gouvernement, parce qu'à l'Assemblée, vous l'avez très bien dit, on fait des propositions de loi, mais il y a aussi les projets de loi, qui c'est la majorité des textes, qui viennent du gouvernement. Et je voulais aussi vous répondre sur le dernier point, sur les 49.3. Il y a eu 13 49.3 sur 6 textes budgétaires.
Ce qui est quand même un peu énorme. Hein.
Mais il y en avait eu 15 ou 16 sous François Hollande. Enfin, en fait, quand on présente les 49.3, je le redis et je l'avais dit à Madame Bonnet, on ne les a fait que sur des textes budgétaires. Pourquoi il y en a eu 13 ? Parce que la navette parlementaire...
Vous l'avez fait aussi sur la retraite ?
Mais c'était sur un PLFSS,
oui,
donc c'est un texte budgétaire.
Oui,
non,
enfin,
mais c'est un véhicule budgétaire, c'est ça que je veux dire. Et pourquoi il y en a eu 13 ? Parce qu'un texte, il vient à l'Assemblée, il part au Sénat, il revient à l'Assemblée. Donc, il n'y a eu que 6 textes. Mais il y a eu des 49.3 plusieurs fois sur le même texte. Sur la retraite, le PLFSS, qui était le véhicule législatif qui portait la réforme de la retraite, était un texte budgétaire. Donc, on n'a pas fait 49.3 hors texte budgétaire. Moi, sur la retraite, je suis très à l'aise. J'avais communiqué à la suite du 49.3 en disant que je n'étais pas favorable au 49.3 sur cette réforme, qu'il fallait la voter. Moi, vous savez, j'ai pas de souci à perdre un vote. Hein. C'est aussi ça, la démocratie. si on est en capacité de convaincre et d'emmener assez de gens avec nous, le texte passe. Et si on n'y arrive pas, ça ne passe pas, et à nous de l'apporter différemment. Mais voilà, après, sur les textes budgétaires, c'est important de pouvoir doter la France d'un budget. Donc, c'était plutôt en responsabilité.
Puisqu'on parlait de désistement, notamment concernant la première circonscription de la candidate Nouveau Front Populaire, Ghislaine Bonnet, je voudrais savoir ce que vous pensez de la déclaration de la présidente de région hier, Christelle Morançais, que vous mettez sur votre affiche, hein. Donc c'est important de clarifier votre position, qui finalement décide, comme l'avait fait en son temps un certain François Fillon, face au Rassemblement National, de ne voter ni Rassemblement National, ni aucun candidat qui représente le nouveau Front Populaire, parce qu'elle explique que le PS, par exemple, s'est spolié, on va dire, en faisant coquinage avec la France Insoumise. Qu'est-ce que vous pensez de la position de la présidente de région, Christelle Morançais? Et on se pose la question, est-ce que finalement, à un moment, le Front Républicain, qui a tant servi à faire barrage au Front National et au Rassemblement National maintenant, ne marche plus?
Moi, je pense que le Front Républicain aujourd'hui n'est plus ce qu'il était en 2022 face à Jean-Marie Le Pen. Faut dire les choses.
Il reste quand même ce qu'on appelle le Front Républicain.
Je dis que c'est plus le même. Après, sur les déclarations.
Pourquoi ce n'est plus le même?
Parce que je pense que le Rassemblement National s'est extrêmement normalisé et que les gens n'ont plus la crainte du Front National de l'époque, alors que finalement, c'est pour moi exactement la même chose.
Donc ça veut dire que le Rassemblement National est plus fréquentable, on va dire les choses comme ça, que le Front National hier?
Ils se sont rendus plus fréquentables. Mmh. Mais moi, je pense qu'ils ne le sont pas. Les idées d'hier sont encore celles d'aujourd'hui, et c'est pas parce que... on repeint un mur abîmé qu'en dessous, ça reste pas en l'état. Et quand le vernis craque, moi je l'ai vu à l'Assemblée, on a quand même des propos assez similaires à ce qu'on a pu entendre il y a quelques années de la part de dirigeants du Front National. Sur les déclarations de Madame Morançais, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, elle a sa position. Moi, ce que j'apprécie... de tous les élus.
Est-ce que vous partagez sa position?
Je vais vous le dire, mais ce que j'apprécie chez tous les élus, c'est quand on a l'honnêteté de dire ce qu'on pense. Mmh. Et moi, j'ai échangé avec elle, ce n'est pas ma position. Je l'ai dit hier à vos collègues de France Info, j'étais en direct sur France Info Télé. C'est la position de Bruno Le Maire, c'est la position de d'autres aussi poids lourds de cette majorité.
Alors Bruno Le Maire est plus nuancé, hein. Lui, il appelle moi, à ne pas
moi
voter
personnel,
pour LFI.
Moi, personnellement, c'est non au Rassemblement National. Mmh. Sur le nouveau Front Populaire, moi je regrette effectivement hein, que le PS, qui a fait sa campagne des européennes contre la NUPES, soit retourné dans cette alliance qui pour moi est contre nature. Mais je ne mets pas non dans le même panier nos partis comme le PS ou les écologistes ou le Parti communiste même. Mais également, la France insoumise porte des valeurs qui ne sont pas celles de ces partis-là. Donc moi, évidemment, que je ne les mets pas dans le même panier. Pour moi, c'est barrage au Rassemblement National. Mais ce que j'apprécie et ce qu'il faut noter, c'est que j'ai la liberté de dire ce que je pense et il faut qu'on préserve cette liberté. Et ce que j'apprécie chez Christelle Morançais, c'est que même quand on sait que ça va déplaire, elle dit ce qu'elle pense et elle assume. Donc j'ai pas d'obligation d'être en accord avec elle, mais je pense que les gens attendent aussi ça de leurs élus, c'est qu'on dise les choses telles qu'on les pense et pas pour faire plaisir.
Alors même si on dit les choses quitte à déplaire, ça peut être dangereux un moment pour le Front Républicain, parce que qu'est-ce qui vous dit que la gauche par rapport à ce genre de déclaration, c'est la même chose pour les Républicains, hein, le nini, hein. Qu'est-ce qui vous dit que les électeurs de gauche ne sont pas choqués de voir que la droite en règle générale, ne fassent pas Front Républicain contre le Rassemblement National. Ils disent, après tout, pourquoi on irait voter pour les candidats de droite alors que les partis de droite n'appellent pas à voter forcément pour les représentants du nouveau Front Populaire. Est-ce qu'à un moment, vous pouvez vous imaginer ce genre de réaction?
Mais vous avez raison de le dire. Moi, je regrette aussi la position des LR avec qui j'ai discuté dimanche soir, qui ne prennent pas position.
Bon, c'est plus flou, les LR, on ne sait plus s'ils sont avec le RN, oui. S'ils sont encore ou pas, enfin, c'est un peu flou.
Alors, hein, leur position nationale est floue, mais moi, j'ai aussi souhaité échanger avec eux en local, parce que je pense qu'on peut aussi prendre en compte les cas dans chaque circonscription. Moi, je suis de la majorité, le bloc central, je suis face au Rassemblement National. Peut-être que sur ces cas-là, ils pourraient se positionner. Voilà, je peux entendre que les LR n'aient pas envie de se positionner sur un duel LFI-RN, peut-être. Mais moi, ça me pose question et je pense qu'on a tous des idées, des valeurs. Moi, typiquement, je serais dans une circo avec un PS face à un RN. Mmh. J'appellerais évidemment à voter pour le PS et les électeurs sont libres de leur vote. Un appel au vote, c'est juste donner un sentiment qu'on a. Mais voilà, ça c'est ma vision. Mais je pense que de toute façon, les appels au vote, de toute façon, je pense pas que ça marche. Voilà, chacun. Les Français sont assez intelligents.
Non, mais il y a du symbole politique républicain.
Il y a du symbole. Maintenant, voilà. Chaque Français est maître...
Les gens font évidemment ce qu'ils veulent, mais il y a du symbole républicain.
Il y a du symbole républicain. On peut regretter, effectivement, puis notamment en local. Je pense qu'on ne prend pas assez en compte dans cette élection. On parle beaucoup du national, et c'est important parce que c'est ce qui se joue. Mais on ne parle pas assez du local.
Et bah ça tombe bien parce qu'on va en parler.
Bah c'est parfait. Mais avant de parler parce du local, que moi ça m'intéresse beaucoup.
Mais voilà, avant de parler, mais il fallait quand même que.
Bien sûr, mais
vous
c'est
êtes
normal.
La seule députée sortante de la majorité qui aura certainement, qui aura fait le déplacement autour de nos micros. Donc c'est pour ça que je vous pose ces questions. En tout cas, pour terminer sur le chapitre national, beaucoup de députés de la majorité vont perdre leur siège dimanche. Est-ce que vous, Julie Delpech, vous en voulez au président de la République qui a décidé de dissoudre sans avoir consulté sa majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sans avoir consulté ceux qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale ?
La Constitution, moi je l'ai dit, lui permet de dissoudre. Moi je l'ai dit publiquement, je pense qu'il y avait d'autres voies que cette dissolution. Je pense qu'elle n'arrive pas au bon moment. Pas pour des sujets électoralistes, mais elle arrive à un moment, on sort des européennes qui n'est pas une élection nationale, donc pour moi, j'aurais pas fait le lien. Elle arrive à quelques semaines des Jeux Olympiques, ça nous met en instabilité. Donc voilà, moi, cette dissolution, et à un moment donné, il faut juste être un peu honnête avec les gens, elle serait arrivée, de toute façon, quand c'était à décider. Je pense juste que c'est pas le bon moment. Sur le fait qu'il n'ait pas consulté, il n'a pas d'obligation de consulter les parlementaires de sa majorité. Il doit consulter le Premier ministre, il doit consulter la présidente de l'Assemblée, la présidente du Sénat. Ça n'a pas été fait dans les règles.
Voilà. Parce que quand on est en République, on consulte le peuple. Hein. Donc le ça peuple est représenté à l'Assemblée nationale directement par les députés.
C'est
nulle
vrai.
Part ailleurs, à part le président de la République qui est élu au suffrage universel.
Et c'est pour ça que la présidente de l'Assemblée nationale le dit aussi. Et elle a dit au président qu'il y avait une autre voie, qu'on n'était pas forcément obligé d'en arriver là à la dissolution. Maintenant, moi, vous savez, c'est bien de regarder dans le rétroviseur. On va dire, c'est fait, c'est fait. Je pense pas que c'était le bon moment. Maintenant, on retourne au combat.
En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que ça déroule le tapis rouge pour l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National. On parlait du local. Et c'est très important parce que des électrices, des électeurs de la première circonscription vont se poser la question, ok, voilà, on a discuté un petit peu, on a débriefé tout ça, du sens politique de ces élections, mais qu'est-ce que la députée va pouvoir, dans son programme, apporter concrètement sur le terrain ? Qu'est-ce que vous voulez apporter très concrètement, en fonction des réalités de votre circonscription, à ceux que vous appelez à voter pour vous dimanche ?
Vous savez, moi je l'ai dit en 2022, je le redis là parce que je le pense fermement, pour être un bon député, il faut être beaucoup sur le terrain.
Ou une bonne députée.
Il faut être beaucoup sur le terrain et faire remonter les problématiques à l'Assemblée nationale. Moi, là, je fais une campagne où la candidate du Rassemblement national, qui fait un très bon score, je ne l'ai pas vue une seule fois sur le terrain. Pourtant, les gens votent pour elle.
Alors, elle a aussi refusé de participer au débat.
Et elle a refusé de participer au débat.
En tout cas, elle ne s'est pas manifestée.
Elle ne répond pas.
Voilà.
Moi, ça fait 2 ans. Que je suis toutes les semaines sur le terrain, que je réponds à l'ensemble des demandes que je reçois, que je fais mensuellement, tous les mois, des permanences citoyennes où les citoyens peuvent venir me rencontrer, m'échanger avec moi leurs problématiques. J'ai rencontré l'ensemble des maires de ma circonscription. J'ai porté avec eux leurs dossiers de financement, que ce soit la DETR, les fonds verts. Je les ai accompagnés dans des démarches pour des poteaux téléphoniques cassés qui faisaient qu'il n'y avait plus de réseau dans la commune. C'est ça le député. Et moi, aujourd'hui, la question que je pose aux gens, c'est que, je dis souvent en plaisantant, mais si je loupe un repas des anciens, on m'en parle pendant 6 mois, 1 an.
Oui, parce que les anciens se manifestent.
Parce que les anciens c'est important qu'on aille les voir. Alors, ce que je dis aux anciens,
même,
c'est
même
que je,
les élus locaux,
ce
hein.
que je dis aux anciens quand je vous parle pas, c'est que c'est pas que je voulais pas venir, c'est que j'étais à un autre repas des anciens, puisque j'ai 72 communes sur cette circonscription. Et on en plaisante, et voilà. Mais les gens sont attachés à ce que leur député soit là et à le voir. Et déjà, une campagne, ça donne le ton. Quand quelqu'un ne se présente pas sur le terrain, alors... Évidemment qu'il y a la vague nationale qui fait que le Rassemblement national fait un score. Mais moi, ce que je dis aux habitants de la circonscription, c'est au 7 juillet, est-ce que vous voulez continuer d'avoir une députée qui, tous les mois, vous propose de la rencontrer en permanence citoyenne, qui répond... Moi, c'est un mail reçu, une réponse apportée. C'est comme ça que je fonctionne. On a envoyé plus de on a répondu à plus de 1700 demandes en 2 ans. Donc c'est ça le futur.
Pour être concret, parce que les gens ont besoin vraiment de concret, hein. Les paroles s'envolent, parlons les paroles, comme disait Alain Delon à Dalida, enfin Dalida plutôt à Alain Delon. Qu'est-ce que, sous votre mandature, vous avez été député durant 2 ans, qu'est-ce que de concret vous avez pu obtenir pour les habitants de votre circonscription? Quelque chose de concret pour lequel vous avez sollicité l'aide du gouvernement, l'aide des ministres?
Tout à fait. Alors, on parle beaucoup de sécurité, ce qui est certainement légitime dans le sentiment d'insécurité qui peut être ressenti par les gens. J'ai obtenu l'implantation d'une nouvelle brigade de gendarmerie à Arçonnay dans le cadre de l'implantation des 200 brigades en France décidées par Gérald Darmanin. Cette brigade, elle va permettre qu'il n'y ait plus un temps d'intervention de 45 minutes quand on habite dans le Nord-Sarthe, mais plus proche de 15 à 20 minutes, ce qui est extrêmement important. J'ai obtenu la non-fermeture de certaines classes en ruralité, parce que vous savez, moi, ce que je dis toujours au service de l'éducation nationale, c'est que fermer des classes, c'est facile, les rouvrir, c'est difficile. Et donc, moi, je plaide toujours pour qu'on arrête de regarder les chiffres à la rentrée scolaire, mais que se projette. Quand on a des communes où il y a eu 30 naissances, ces enfants-là, ils vont arriver à l'école. Donc moi, j'ai obtenu la non-fermeture d'un certain nombre de classes. J'ai travaillé beaucoup avec les élus locaux sur la santé. On a un vrai sujet de désertification médicale. Et aussi sensibiliser les élus locaux à différents dispositifs qu'on a pu voter, comme les infirmiers en pratique avancée, aussi la possibilité pour les pharmaciens de vacciner, etc. Donc j'ai aussi été un relais pour sensibiliser les maires à tout ça. Et aussi, sur la prise en charge de la psychiatrie, j'ai obtenu, grâce au ministre Valtou, une mission ministérielle sur un peu la prise en charge de la psychiatrie en Sarthe. Et l'idée, c'est de faire un état des lieux, de faire des propositions et qu'on soit territoire pilote sur l'application de nouvelles méthodes
même
pour la si prise
rien,
en charge.
Même si rien n'est réglé au niveau de l'hôpital psychiatrique.
Vous savez,
du Mans.
Moi, l'hôpital...
Enfin, la santé mentale, on dit aujourd'hui.
La santé mentale, moi, j'ai échangé beaucoup avec le PSM. Je suis au conseil de surveillance de l'hôpital, puisque c'est sur la première circonscription de la Sarthe. Et quand j'échange avec eux, nous, on nous parle toujours d'argent. Les deux me disent... Notre sujet, ce n'est pas les moyens financiers, c'est les moyens humains. Donc tout l'enjeu, il est de former plus de soignants. Là, on a 2000 médecins avec la levée du numerus clausus. On a 2000 médecins de plus en formation. C'est 10 ans de former un médecin. Moi, si je dis aux gens, pas de problème. Hein. Maintenant, vous formez un médecin en 3 ans. Moi, je ne vais pas me faire opérer par un chirurgien qui a fait 3 ans de formation. Je ne serais pas forcément très rassuré. Donc, ça prend du temps.
Simplement pour conclure et essayer de comprendre pourquoi les gens ont porté leur voix sur le Rassemblement national. Alors, oui, on va le dire, il y a des gens racistes qui ne supportent pas les immigrés. Et on le voit dans cette campagne, les langues se délient sans complexe depuis que Jordan Bardella a gagné les européennes. Mais il y a un autre, surtout vrai souci, et notamment qui explique peut-être le vote massif pour le RN dans les campagnes, c'est quand même le service public. Finalement, si on regarde les politiques en faveur des services publics qui ont été décidées ces dernières années, et je ne parle pas que d'Emmanuel Macron, il y a peut-être d'autres antériorités comme à l'époque de Nicolas Sarkozy, on a fermé des services publics de proximité, ce qui oblige des gens à prendre leur voiture et donc à avoir un coût considérable sur la mobilité. Est-ce que finalement, en ayant fait l'économie sur des fonctionnaires et sur des services publics, on n'est pas en train de payer la facture de gens qui en ont ras-le-bol et qui n'ont rien à proximité concernant les services publics?
Alors, vous savez que il y a eu beaucoup de postes de fonctionnaires supprimés sous Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit.
C'est pour ça que je
l'ai
dit.
Nous, on en a recréé. Et surtout, on est quand même parti de ce constat que nos ruralités n'avaient plus accès aux services publics. Et vous parlez que c'est cher de prendre la voiture, mais on a aussi beaucoup de concitoyens qui n'ont pas de voiture ou qui n'ont pas le permis de conduire. Et c'est pour ça qu'on a créé les Maisons France Service. Aujourd'hui, il y a 2700 Maisons France Service qui ont été créées partout en France. L'objectif, c'est d'atteindre 3000 en 2027. Et là, aujourd'hui, l'objectif, et ça, c'est, on en a de plus en plus en Sarthe, maintenant, on a accès aux services publics à moins de 15 minutes de chez soi. Et les maisons France Service, elles regroupent les impôts, Pôle emploi, la
ouais,
sécu.
Mais ça ne satisfait pas les gens, vous le savez bien.
Bah, on a rapproché quand même les services publics de la ruralité. Je pense que c'est bien de dire ce qui ne va pas, mais c'est aussi bien de dire les choses qui ont été faites et qui vont dans le bon sens. Moi, j'ai inauguré des maisons France Service, je suis allée les visiter. J'ai vu que des usagers ravis qui ne pouvaient plus se rendre au Mans pour aller aux impôts. Hein. C'est
pas
possible.
Il y en a, par exemple, dans votre circonscription, des maisons.
Oui, j'ai inauguré celle de Ciel-Guillaume, par exemple, au tout début de mon mandat. Quand j'échange avec soit les usagers ou les maires, moi, les maires me disent d'avoir retrouvé un guichet des impôts dans ma commune, notamment au moment où on doit faire nos déclarations d'impôts sur le revenu. Et même, d'ailleurs, le site des impôts au Mans nous dit que ça nous a beaucoup déchargé. On a moins de monde qui vient au Mans parce que les gens vont dans les maisons France Service. Donc, il y a encore du travail. Moi, je ne dirais jamais que tout est parfait. Par contre, je ne laisserai pas dire que rien n'a été fait.
On arrive au terme de cet entretien. Judy Delpech, on rappelle que vous êtes la députée sortante Ensemble pour la République qui représentait la majorité présidentielle. Quel message vous avez envie d'adresser à vos électrices et à vos électeurs pour qu'ils aillent voter pour vous dimanche?
Le message que je veux adresser, c'est déjà d'aller voter. C'est extrêmement important. Il faut saluer le taux de participation élevé au premier tour. Le deuxième message, c'est que le 7 juillet, on ne fait pas un référendum pour ou contre Macron. On est en train de choisir notre Assemblée nationale qui fait les lois, vous l'avez rappelé, et notre gouvernement qui va proposer des lois. Donc aujourd'hui, c'est quelle France on veut demain. Et j'invite les gens à regarder le programme du Rassemblement national avec beaucoup de « on va faire peut-être, on ne sait pas ». Et surtout, je dis aux citoyens de la première circonscription que moi, ça fait 2 ans que je vais sur le terrain chaque semaine. Dès que je ne suis pas à Paris, je suis sur le terrain. Et je pense que nos concitoyens sont attachés à avoir des élus de terrain. Et je ne suis pas juste la représentante d'un futur potentiel Premier ministre pour lui faire gagner une majorité absolue. Je suis là pour représenter les citoyens de la première circonscription. Je ne suis pas là pour représenter un parti politique.
Merci Julie Delpech, on rappelle que vous êtes la députée sortante Ensemble pour la République, majorité présidentielle, qui défiera donc au deuxième tour Céline de Cossé-Brissac du Rassemblement National, qui est arrivée, on le rappelle, en tête du premier tour avec 33,6% des voix, et faut-il le rappeler, qui a décliné le débat que Radio Alpa proposait pour ce second tour sur la première circonscription. Cet échange sera rediffusé ce soir à 19h et demain à 9h. Vous pourrez aussi le retrouver en podcast téléchargeable sur radioalpa.com et sur les plateformes numériques Deezer, Spotify, etc. Merci à Romain Linan pour sa réalisation technique et à Frédéric Chauveau d'y avoir contribué. On rappelle aux électrices et aux électeurs que dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Demain, nous recevrons les candidates et candidats qualifiés pour le second tour sur la deuxième circonscription de la Sarthe. Je serai en compagnie de Marietta Caramanli pour le Nouveau Front Populaire et François Febvre, candidat Les Républicains, soutenu par le Rassemblement National. Pour que vive la démocratie, dimanche, votez pour élire votre député.